Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Un geste simple et sain pour la grande majorité des Français. Ouvrir le robinet, remplir un verre d'eau, le boire. De l'eau polluée pour 2 millions de consommateurs, polluée aux nitrates et aux pesticides. L'UFC Que Choisir veut faire payer les agriculteurs. On vous explique tout cela. Embaucher dans les maisons de retraite parce que le nombre de personnes âgées dépendantes aura doublé d'ici 30 ans. On fera le tour des propositions du rapport remis aujourd'hui à Agnès Buzyn et vous y consacrez le téléphone sonne, Fabienne.
Et c'est vrai, ce rapport parle notamment de 9 milliards et de piocher dans la CRDS qui sert aujourd'hui à combler le trou de la Sécu. On verra ce que ça veut dire réellement. On verra aussi comment on fait pour revaloriser tous ces métiers liés au grand âge. Le rapporteur est avec nous et le téléphone sonne comme d'habitude 01 45 24 7000.
Au sommaire également ce soir, la première sortie du candidat Griveaux à la mairie de Paris. C'est en ce moment en place de la République. Le bras de fer Russie-États-Unis au Venezuela. Et puis un match de la saison de NBA, ce sera l'an prochain à Paris-Bercy. L'UFC Que Choisir s'est donc penché sur l'eau potable que nous consommons, celle qui arrive à nos robinets. Et le constat est globalement bon, très bon même. Elle est de très bonne qualité pour plus de 95% des Français, d'après l'association de consommateurs. Mais elle est polluée en pesticides ou en nitrates pour plus de 2 millions d'entre nous. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
L'UFC a fait les comptes. Dépolluer coûte au moins 750 millions d'euros. Elle suggère donc plutôt de faire de la prévention, preuve à l'appui.
Oui, l'UFC a choisi, l'UFC Que Choisir, pardon, a étudié un échantillon de 102 captages d'eau les plus exposés, où des mesures ont été prises pour éviter une pollution liée aux pesticides et aux nitrates. Autour de ces sources, on est passé à de l'agriculture bio, on a reboisé ou obligé les exploitants à réduire les doses de produits phyto. Eh bien, ça fonctionne, estime Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir.
Pour deux tiers de ces sources qui ont été enquêtées, on voit une baisse des pollutions, soit en pesticides, soit en nitrates. Et dans le détail, on voit par exemple sur les nitrates, ça a un impact nettement positif. Hein. Sur 71 sources qui étaient concernées par les pollutions en nitrates, on a eu des baisses dans deux cas sur trois.
L'étude dit aussi que les mesures de prévention sont beaucoup plus efficaces quand elles sont pilotées par les communes et par les préfets, plutôt que par les chambres d'agriculture. Pour l'UFC Que Choisir, il faut donc inciter l'agriculture intensive à changer ses pratiques en lui faisant payer la dépollution de l'eau.
Parmi les mesures que nous demandons, c'est l'application du principe pollueur-payeur. En effet, alors que les consommateurs payent chaque année, du fait des pollutions agricoles, entre 750 millions d'euros et 1,3 milliard, eh bien, il n'est pas normal qu'ils payent pour des pollutions dont ils ne sont pas à l'origine et qu'ils subissent.
Aujourd'hui, des mesures de prévention de la pollution existent autour de 1000 sources d'eau. L'UFC Que Choisir demande leur généralisation aux 35 000 captages en France. Sur le principe, mieux vaut éviter de contaminer l'eau plutôt que de payer sa dépollution.
Sandy Dauphin. L'UFC met donc clairement en cause les agriculteurs, leurs engrais et leurs produits phytosanitaires. Elle suggère que le principe pollueur-payeur soit appliqué, on vient de l'entendre. Pas question, répond Christian Durlin, vice-président de la commission environnement de la FNSEA, le principal syndicat agricole, joint par Laurence Méride.
La situation évolue, il y a déjà des efforts qui sont faits. L'évolution des techniques agricoles, elles prennent quand même un certain temps. Et qu'en plus, les résultats sont pas immédiats. Quand vous changez de technique, il y a une inertie dans la réponse. Les résultats d'une année se voient plusieurs années après l'application d'une nouvelle technique. Si vous mettez des taxes sur l'activité agricole par rapport à cette question de l'eau, c'est forcément une sanction pour les agriculteurs. C'est comme ça que ça va être pris. Et les moyens que vous mettez à payer des taxes, ce sont des moyens que vous n'avez pas, soit pour acheter de nouveaux matériels pour changer des pratiques, soit pour compenser d'éventuelles pertes de rendement. Ça ne peut pas coûter des deux côtés, à la fois dans la taxe qui pourrait arriver sur la qualité de l'eau et puis en même temps sur des investissements qui sont nécessaires pour évoluer dans les techniques culturales. Donc là, ce serait vraiment le système de la double peine.
Alors, est-ce lié à l'eau que nous buvons, à notre environnement, au progrès de la médecine? En tout cas, nous vivons de plus en plus longtemps et les personnes dépendantes sont donc de plus en plus nombreuses. Voilà le constat de départ simple, basique du rapport remis aujourd'hui au gouvernement. Rapport du haut fonctionnaire Dominique Libault qui a travaillé près de 5 mois et qui fait 175 propositions pour améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Elles seront, selon lui, deux fois plus nombreuses qu'aujourd'hui d'ici 2050, 2 200 000. Alors, pour se préparer, bonsoir. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir Sébastien.
Le rapport suggère d'embaucher 80 000 professionnels dans les maisons de retraite.
Oui, des postes de personnel soignant ou paramédical. Ça représenterait 13 emplois supplémentaires pour 100 résidents, 25% de plus qu'à l'heure actuelle. Les métiers du grand âge feront d'ailleurs l'objet d'une mission prioritaire lancée par Agnès Buzyn dans les prochains jours pour savoir comment les rendre plus attractifs. Au sujet des EHPAD, toujours la moitié des établissements publics seraient vétustes aujourd'hui. Le rapport prévoit donc un vaste plan de rénovation, 3 milliards d'euros étalés sur 10 ans. Les experts préconisent aussi de diminuer le reste à charge en maison de retraite. Aujourd'hui, l'hébergement coûte en moyenne 1 800 euros par mois. C'est trop pour de nombreuses familles. Et puis globalement, il s'agira de mener une réflexion sur les conditions de logement des seniors, trouver des compromis entre le maintien à domicile, pas assez sécurisant, et les EHPAD, trop contraignants pour certains. Enfin, il est aussi question de simplifier les démarches, de centraliser les interlocuteurs. On parle souvent d'un véritable parcours du combattant pour les familles. Le rapport suggère donc de créer des maisons départementales, sorte de guichet unique, pour faciliter la tâche aux seniors et aux aidants.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce un projet de loi à l'automne. Merci Lisa Guyenne. Et pour financer le grand âge, 35% de budget supplémentaire d'ici 2030. Elle propose notamment de pérenniser la CRDS et elle promet qu'il n'y aura pas de nouveaux prélèvements obligatoires.
Il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour financer la dépendance. La demande des Français issus du grand débat national, c'est moins d'impôts, moins de taxes. Et donc toutes les solutions que nous devons proposer devront évidemment tenir compte de ces engagements devant les Français. Donc nous allons travailler sur les pistes proposées, qui sont celles de la réorientation d'une taxe existante. Il y a aussi des pistes qui visent à proposer de travailler plus longtemps. Vous le savez, ça a été ouvert la semaine dernière dans les débats. Et nous travaillerons avec les parties prenantes pour trouver la solution qui convienne le mieux aux Français. C'est un travail des Français pour les Français. Ça n'est pas qu'un plan gouvernemental. Ça engage toute la société française pour les 30 ou 40 ans à venir. Et il faudra évidemment que nous trouvions une solution collective à cet enjeu majeur de société.
Et la dépendance, c'est donc aussi le sujet du téléphone. Sonne à 19h20, Fabienne.
Au 01 45 24 7000, avec le rapporteur Dominique Libaud, justement. Il est 19h07, Sébastien. Voilà une décision qui va nous intéresser en France, en plein mouvement des Gilets jaunes.
Oui, la Cour européenne des droits de l'homme vient de valider le recours à la détention préventive quand il s'agit de préserver l'ordre public. Bonsoir, Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Elle était saisie, la CEDH, par 8 londoniens.
Oui, des opposants à la monarchie qui avaient prévu de manifesté au moment du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011. Certains d'entre eux avaient l'intention, par exemple, de participer à un pique-nique zombie où il était question de jeter des asticots sur le cortège princier. Ils ont été placés en détention juste le temps des célébrations avant d'être relâchés sans faire l'objet de poursuites. Une détention arbitraire, selon eux, mais la CEDH n'y a rien trouvé à redire. Décryptage de Nicolas Hervieux, juriste et spécialiste en droit européen des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de ne pas condamner le Royaume-Uni en estimant qu'il était possible pour des États de priver de liberté des personnes qui présentaient une menace imminente pour l'ordre public dans un contexte notamment de lutte contre le terrorisme et également en considération du fait qu'ils n'ont pas été détenus très longtemps, seulement quelques heures. Ça ouvre évidemment la boîte de Pandore pour la possibilité que des États neutralisent différentes personnes en les plaçant en détention quelques heures afin de les empêcher de se présenter en certains lieux et aussi, évidemment, potentiellement de participer à des manifestations, ce qui fait naturellement écho à la situation en France.
Alors, cette décision est-elle directement transposable dans le droit français ? Par exemple, lors d'un samedi de manifestation des Gilets jaunes, eh bien en fait, pas tout à fait, parce qu'il y aurait là une atteinte à la liberté de manifestation et d'expression démocratique. Et puis le régime de la garde à vue est plus encadré chez nous. Mais selon Nicolas Hervieux, cette décision ouvre une brèche dans laquelle le gouvernement et le législateur français pourraient bien avoir la tentation de s'engouffrer.
La justice en France maintenant, merci Laurélie Carrive, avec la mise en examen de Yacine Bellatar après 2 jours de garde à vue. L'animateur radio de 36 ans, nommé l'an dernier par Emmanuel Macron au Conseil présidentiel des villes. Il est mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral. Il est visé par une plainte de l'ex-auteur des Guignols, Bruno Gassiot, et mis en cause par plusieurs personnes du monde du spectacle. Radio Nova annonce ce soir qu'elle le met en retrait de son antenne. La justice encore avec ses réquisitions rarissimes aux assises à Toulouse. Dans la mort d'une femme de 49 ans, c'était en 2011 à Boulogne. Son mari n'avait pas vu revenir cette femme de son jogging quotidien. Son corps avait été retrouvé un mois et demi plus tard, caché dans une conduite d'eau. L'accusé est peut-être coupable pour l'avocat général, mais il demande l'acquittement, Stéphane Iglesias, parce qu'il n'y a pas de preuves.
Le doute, c'est un hommage que l'on rend à la vérité. C'est avec cette citation d'Ernest Renan que l'avocat général a terminé ses réquisitions en expliquant qu'en l'absence de preuves suffisantes et avec un doute raisonnable, vous acquitterez, a-t-il donc lancé à la cour. La probabilité, ce n'est pas comme dans les courses de chevaux quand il s'agit de condamner un homme, maître Guy Dubuisson, l'un des avocats de la défense.
Personne n'était là ce soir-là, on ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas s'il est innocent, mais c'est le doute. Et la règle veut que s'il y a un doute, il soit acquitté. À condition, bien évidemment, que chacun, je parle des jurés de la cour, garde son indépendance et ne se laisse pas influencer. Dans la mesure où il y a des hypothèses, il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, il y a un doute. S'il y a un doute, c'est l'acquittement.
Christian Bouchon, le mari de la victime, compte désormais sur le jury.
Qu'il ne sache pas, j'en suis persuadé. Il n'a pas vraiment cherché à savoir non plus. Mais moi, je reste très confiant. Monsieur l'avocat général a toujours un point de vue qui m'a déplu parce que je pensais qu'un avocat général portait une accusation, ce qui n'était pas le cas. Il aurait pu au moins essayer de la porter en la nuançant. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas fait son travail. C'est ce qui m'a gêné, ce qui m'a blessé.
La défense a enfin expliqué au jury qu'il n'était pas là pour sauver l'enquête. Le verdict sera rendu lui demain. Toulouse, Stéphanie Iglesias, France Inter.
8 nouvelles comparutions immédiates à Bobigny après les violences contre les Roms pour de folles rumeurs d'enlèvement d'enfants. 4 jeunes de 18 à 22 ans étaient déjà présentés à la justice hier soir. Ils seront jugés dans 2 semaines. Faut-il y voir une métaphore de la situation dans les prisons françaises? Une partie du mur d'enceinte de la maison centrale de Poissy dans les Yvelines s'est effondrée ce midi sur une trentaine de mètres à cause de travaux de rénovation qui ont alourdi la structure. L'établissement est toujours protégé, assure l'administration pénitentiaire.
Ministre hier, candidat au municipal aujourd'hui.
C'est Benjamin Griveaux qui a quitté le gouvernement hier à 20h comme Mounir Majoubi. L'ancien porte-parole se lance officiellement dans la course à la mairie de Paris moins de 24 heures après. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Coup d'envoi donné en ce moment Yann dans un bar de la place de la République.
Et Benjamin Griveaux est arrivé détendu vers 19h, les mains dans les poches, dans ce bar donc situé au milieu de la place de la République. Une arrivée sous les applaudissements de quelques dizaines de militants de La République En Marche et des collaborateurs les plus proches de l'ex-porte-parole du gouvernement. Alors Benjamin Griveaux a commencé à faire le bilan de son action passée au sein du gouvernement, un gouvernement qu'il quitte, dit-il, avec émotion.
Hier, il s'est passé quelque chose qui est très émouvant dans la vie du jeune quadra que je suis. D'abord, le jeune quadra que je suis, il y a 2 ans, il n'imaginait pas une seule seconde être un jour nommé au gouvernement. Et alors, à 41 ans, j'imaginais pas une seule seconde dire « j'ai envie de quitter le gouvernement pour aller faire autre chose ».
Alors à 1 an des municipales, Benjamin Griveaux annonce en ce moment même sa candidature officielle à la mairie de Paris pour essayer de détrôner la socialiste Anne Hidalgo. Mais il va d'abord devoir convaincre la base, s'implanter localement et surtout faire face aux autres candidats déclarés ou putatifs de La République En Marche, à commencer, vous le disiez, par Mounir Majoubi ou également Cédric Villani, le mathématicien. La lutte sera donc rude entre les différents candidat de La République En Marche. C'est la commission nationale d'investiture du parti qui doit trancher en juin pour savoir qui sera le candidat à la mairie de Paris. Mais c'est vraisemblablement le président de la République lui-même qui prendra la décision.
Et qui a déjà en quelque sorte un petit peu tamponné la candidature de Benjamin Griveaux en l'autorisant dès hier à quitter le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas de Mounir Majoubi. Il n'a pas été, lui, tamponné, si je puis me permettre cette expression. Emmanuel Macron qui poursuit le grand débat, cette fois depuis la commune de Beaupréau en Mauges, c'est entre Angers et Nantes, et avec une 50aine d'enfants d'une 10aine d'années. Près de 500 personnes se sont rassemblées à Angers pour l'occasion. Des salariés d'Arjo Wiggins, le papetier menacé de liquidation, et puis des enseignants contre l'école de la confiance et la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer. Les principaux syndicats appellent d'ailleurs à une journée d'action samedi. Ils dénoncent l'autoritarisme du ministre de l'Éducation nationale. C'est notamment à cause de la dégradation des radars automatiques. D'après la sécurité routière, le nombre de morts sur les routes a fortement augmenté en février. 253 tués, c'est 37 de plus qu'en février 2018 et c'est le 2e mois consécutif de hausse. Plus des 3/4 des radars fixes sont hors service depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Évitez d'aller à Londres en train.
Oui, Eurostar déconseille de tenter les voyages au moins jusqu'à mercredi prochain à cause de la grève du zèle des douaniers français qui réclament des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit. Un divorce qui ne se précise toujours pas chez vous à Londres. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
Malgré un 3e vote des députés, ce sera demain sur l'accord donc négocié par Theresa May, qu'ils ont déjà refusé 2 fois. Alors comment compte-t-elle s'y prendre cette fois demain ?
Eh bien, en réglant deux problèmes, l'un technique, l'autre arithmétique. Le problème technique porte sur la procédure, impossible selon le très puissant speaker de la Chambre des communes, John Bercow, de voter une troisième fois le même texte. Il fallait qu'il change substantiellement. Et c'est pourquoi la Première ministre va soumettre au vote l'accord de retrait proprement dit, mais pas la déclaration politique qui l'accompagne. Cette déclaration, c'est un peu la feuille de route pour la suite, la négociation des futures relations avec l'Union européenne après le Brexit. Et cette négociation, eh bien, les plus eurosceptiques des conservateurs espèrent la mener eux-mêmes à leur façon une fois que Theresa May aura été remplacée. Pas question de voter une déclaration politique qui vienne leur lier les mains. C'est donc une nouvelle fleur que leur fait Theresa May en ne la soumettant pas au scrutin. Objectif toujours le même, convaincre un maximum de députés. Aucun ne doit manquer car la majorité lui échappe toujours. Ça, c'est le problème arithmétique et il tient en trois petites lettres. DUP, cette poignée d'unionistes nord-irlandais, groupe charnière toujours aussi inflexible. Mission impossible donc pour Theresa May. De toute façon, c'est mort. Commentaire attribué ce soir à Boris Johnson, le meilleur ennemi de la toujours Première Ministre.
Et réponse officielle donc demain. Merci Louise Baudet en direct de Londres. Le bilan de la fusillade d'Utrecht il y a 10 jours dans un tramway s'alourdit à 4 morts. C'est aux Pays-Bas. Un homme de 74 ans a succombé à ses blessures. Au Venezuela, la bataille pour la présidence entre Nicolas Maduro et Juan Guaido tourne à la querelle diplomatique entre Moscou et Washington à cause des militaires russes qui sont arrivés ces derniers jours à Caracas, Olivier Pujal, et dont le président américain réclame le départ.
Les exigences de Donald Trump poussent aujourd'hui le Kremlin à hausser le ton. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures vénézuéliennes et nous attendons des autres pays qu'ils suivent notre exemple. Fin de citation, retour à l'envoyeur. La diplomatie bulldozer de Trump dans ce dossier trouve désormais sur sa route la méthode du double jeu de Poutine. La présence russe ne date pas d'hier au Venezuela. En octobre, 2 Tupolev 160, des bombardiers stratégiques longue distance, se sont posés sur la piste de l'aéroport de Caracas et y ont stationné quelques semaines. La Russie invoquant déjà à l'époque des accords de coopération militaire. Sur l'envoi de troupes, officiellement 99 experts russes sont arrivés en début de semaine à Caracas, mais depuis quelques mois, la présence de plusieurs centaines de spécialistes du groupe Wagner est évoquée. Cette société paramilitaire privée, très active lors de l'annexion de la Crimée, présente en Syrie et en Centrafrique, serait aujourd'hui en mission pour protéger Nicolas Maduro et les intérêts russes. Mine d'or, pétrole, créances, pour la Russie, des milliards d'euros sont en jeu au Venezuela.
Et Caracas annonce ce soir que l'opposant autoproclamé Juan Guaido, autoproclamé président, est révoqué de son poste de président du Parlement. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas être élu pendant 15 ans selon la loi vénézuélienne. La mort de Pierre Lacroix, ancien demi-mêlée d'Agen et capitaine du 15 de France au début des années 60, avec lequel il a remporté 3 tournois des 5 nations à l'époque. Pierre Lacroix avait 84 ans. L'info du jour à la page sport, c'est cette première dans l'histoire de la NBA, le championnat nord-américain de basket. Un match de la saison régulière sera joué à Paris-Bercy l'an prochain. Ce sera le 24 janvier 2020, Guillaume Batin, et ce sera les Charlotte Hornets de Tony Parker et de Nicolas Batum face à la meilleure équipe actuelle, les Milwaukee Bucks.
La NBA s'est exposée plusieurs fois à Paris ces dernières années, le plus récemment en 2010 avec les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves en match de préparation. Mais cette saison, ce sera un match officiel entre 2 équipes de la conférence Est, les Milwaukee Bucks, meilleure équipe du moment avec l'Espagnol Pau Gasol et le phénomène grec Giannis Antetokounmpo, candidat au titre de MVP, meilleur joueur de la saison, et les Charlotte Hornets avec les 2 Français Nicolas Batum et Tony Parker.
Les Français adorent le basket et c'est une très bonne idée de proposer la NBA aux fans français. J'y suis allé 2 fois avec les Spurs en 2004 et 2007 et là maintenant, avec un match officiel, c'est super. C'est un grand honneur pour mon pays d'accueillir un tel événement et encore plus parce que ce sont des équipes pour lesquelles je joue.
La rencontre aura lieu le 24 janvier 2020 à 21h. Les 15 800 places de Paris-Bercy vont probablement s'arracher en quelques heures. Et si les retombées économiques et médiatiques sont à la hauteur de l'événement, il pourrait même y avoir une 2e rencontre à Paris en 2021.
Et puis John Carpenter recevra le Carrosse d'Or au prochain festival de Cannes au mois de mai, prix qui récompense un réalisateur pour les qualités novatrices de ses films, son audace, son intransigeance. Ça va assez bien au maître américain du fantastique, à qui l'on doit notamment évidemment Halloween ou The Thing.
The Thing, merci beaucoup.
Moquez-vous.
Non, je vous en prie.